une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On peut pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Cathy Dogon. Elle travaille pour le magazine de pédagogie économique Pour l'éco, et cette semaine, elle va nous parler de tofu, de McDonald's et de start-up. Salut Cathy.
Salut Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous faire saliver. Imaginez un petit goût salé, presque fumé, quelque chose qui fond dans la bouche. On peut croquer dedans avec un peu de résistance et découvrir ensuite le jus qui éclate jusqu'aux papilles. Une petite couche de gras s'installe même sur la langue. Pourtant, il ne s'agit pas d'un steak de bœuf, mais bien d'une galette de lentilles. Du simili carné ou du steak végétal, appelez ça comme vous voulez. Enfin, pas vraiment, on va y revenir. Happivore, La Vie, Beyond Meat, Wenty, Eura et consorts ont pour ambition d'envahir les rayons de supermarchés avec ce type de produit et ainsi changer massivement l'alimentation. Plus végétale, elle sera sans souffrance animale, meilleure pour l'environnement et meilleure pour la santé. Alors forcément, l'industrie concurrente, celle de la viande traditionnelle, fait grise mine. Elle est parvenue à obtenir l'interdiction de donner des noms de chair animale à des produits qui n'en seraient pas. Mais l'industrie de la viande a-t-elle vraiment de quoi s'inquiéter ?
Je te jure qu'on est dans la merde ! Je te jure, on est dans la merde !
En France, les végétariens sont moins de 3%. Les Français déclarent manger moins de viande, mais les chiffres de la consommation les font mentir. De son côté, l'industrie végétale doit conquérir un public, donc, et continuer de faire des progrès pour développer ses protéines. Les véganes vont-ils convaincre les carnivores ?
Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la viande végétale ?
La première de ces préparations remonterait aux années 70. On la doit à une communauté végane installée dans le Tennessee, autoproclamée « The Farm ». L'idée était de reproduire la forme et le goût d'un steak. Il s'agissait alors de tempeh, du soja entier fermenté à l'aide d'un champignon spécifique. Aujourd'hui, cette galette peut aussi être constituée de gluten ou de légumineuses, c'est-à-dire des lentilles, des pois, des haricots et du soja. Mais depuis, la viande végétale s'est diversifiée et ne se limite plus du tout à l'imitation du steak. Mais est-ce qu'imiter la viande donne le droit à l'industrie végétale d'en utiliser le nom ? Ces appellations lui servent pour trois raisons. L'expression « steak végétal » est déjà utilisée dans le langage courant, et la nature végétale des produits est l'élément recherché, celui qui suscite l'achat. Elle donne des indications sur le goût et sur la façon de la cuisiner, et quand même, il faut l'avouer, elle est attractive. Et ça, ça facilite le développement de la filière. Mais la France en a décidé autrement. L'industrie de la viande a obtenu l'interdiction par décret de l'utilisation des mots steak, lardon ou saucisse pour des produits à base de protéines végétales. Je cite « Il ne sera pas possible d'utiliser la terminologie propre au secteur traditionnellement associé à la viande et au poisson pour désigner des produits n'appartenant pas au règne animal ». Une particularité bien française, parce que dans l'Union européenne, il en est autrement. La dénomination des produits végétaux, par des termes traditionnellement réservés à la viande animale, est autorisée, à l'exception des produits à base de lait animal. Pas possible donc d'utiliser les mots yaourt ou fromage pour un simili végétal.
Et pourquoi l'industrie de la viande se sent si menacée ?
Bonne question, parce que quand j'ai commencé à regarder quelques ordres de grandeur de ce marché, franchement, j'ai pas compris.
C'est quoi c'est fragile là ? C'est quoi c'est faible ?
La viande animale, de sa production à sa transformation, génère 32 milliards d'euros chaque année. Et c'est sans compter les exportations. Entre 2000 et 2016, ce chiffre d'affaires a augmenté en moyenne annuelle de 1,4%, contre 2,4% pour l'ensemble des industries alimentaires. 3 millions de tonnes de viande sont produites chaque année. Le secteur emploie 103 388 salariés à temps plein. En France, c'est un lobby très puissant, avec beaucoup de relais politiques et très organisé. Mais voilà, les habitudes de consommation de viande sont en train d'évoluer. Arrêtons-nous un moment sur ce point parce que c'est intéressant. Romain Espinoza est économiste au CNRS, spécialiste des mécanismes de prise de décision. Ses travaux portent sur l'alimentation végétale et la condition animale.
Il y a une étude pour France Agrimaire de l'IFOP où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent réduire la consommation de viande. Plus de la moitié des Français déclarent réduire la consommation de viande.
Selon une enquête IFOP de 2022, 29% des hommes déclarent manger de la viande 2 à 3 fois par semaine, principalement de la volaille, du bœuf et du porc. 27% 4 à 5 fois par semaine et 25% déclarent en manger tous les jours.
Et en fait, quand on regarde les statistiques pour 2021, l'année dernière, on a eu une augmentation de la consommation de viande au niveau agrégé.
Selon France Agrimaire, la consommation apparente de viande a augmenté de 1% entre 2020 et 2021. Apparente, parce que vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça.
Donc c'est quand même étrange que plus d'un Français sur deux déclare diminuer la consommation de viande et qu'au niveau agrégé, on voit une augmentation. Donc, il y a certaines personnes qui augmentent leur consommation de viande par un effet juste d'amélioration économique. Par exemple, vous étiez étudiant, maintenant vous êtes salarié, donc du coup, de fait, vous avez un pouvoir d'achat plus élevé, donc vous consommez plus. Mais ça ne devrait pas quand même expliquer cette telle différence entre ce que déclarent les gens et ce qu'ils font. Je pense que la piste que je privilégie, c'est que les gens ont l'impression de réduire alors qu'en fait, ils ne réduisent pas. Donc, on voit, par exemple, qu'il y a un déplacement de la consommation qui, c'est vrai, qui se fait peut-être moins à domicile et plus dans les restaurants.
La consommation de produits carnés à domicile a en effet retrouvé la tendance à la baisse observée depuis 2015. En 2020, avec la fermeture des restaurants à cause du Covid, les Français ont mangé plus de viande à la maison. Une fois la situation revenue à la normale en 2021, la consommation de protéines animales à domicile a recommencé à baisser, moins 5% sur un an.
Ou bien, on a aussi une substitution, donc plus forcément la viande de bœuf, mais par exemple, davantage viande de volaille, par exemple.
Au restaurant et à la maison, ce qu'on appelle la consommation agrégée est particulièrement tirée par la consommation de poulet, plus 1,9% en un an. La consommation de viande de boucherie est en hausse, plus 0,6%, celle de la viande bovine est stable et celle de la viande ovine, en gros le mouton, est en recul.
Il y a le magnon. Ils ont mangé le magnon ?
Les gens ont l'impression, du coup, manger peut-être moins de viande, mais en quantité, au final, ça reste pareil, voire plus, quoi.
Il y a donc un léger décalage entre les déclarations d'intention, manger moins de viande, et la consommation réelle. Est-ce que l'industrie végétale profite de cette situation ?
Selon une étude réalisée par Xerfi en 2019, la vente de protéines animales, en grande et moyenne surface, pourrait atteindre un niveau de croissance de plus 3% par an d'ici 2023. Au Salon international de l'agroalimentaire, le SIAL, qui s'est déroulé en octobre 2022 à Paris, c'était l'année du végétal, si l'on en croit le dirigeant Nicolas Tranzo. Un quart des 2000 innovations présentées cette édition concernaient les substituts à la viande, aux produits laitiers ou aux poissons. Pour certains Français, l'habitude est déjà installée. Un tiers des hommes déclarent avoir mangé un steak végétal ou un burger végé au cours des 3 derniers mois.
Et comment l'industrie végétale répond à cette demande ?
Ce marché a une structure bien particulière. Romain Espinoza nous l'a décrit.
Alors en France, on a à peu près 3 grands types de marques. On a soit les marques qui ont été développées par des startups françaises. Donc on a par exemple Apivore, c'est les anciens, les nouveaux fermiers, qui eux ont vraiment créé les steaks végétaux, aussi des allumettes pour ressembler à des lardons. Ensuite, il y a des startups plus récentes, comme la startup française La Vie, qui entre autres a un partenariat avec Burger King.
Apivore a levé 35 millions d'euros cette année et Xavier Niel détient 1% de cette entreprise. La Vie, de son côté, a levé 25 millions d'euros en 2022. Et il y a aussi d'autres entreprises comme les nouveaux affineurs, Kokiriki, Onami Foods ou Harry & Co. Romain Espinoza.
Vous avez ensuite les acteurs traditionnels du marché, comme par exemple Herta, qui s'était mis sur le sujet, Garden Gourmet. Voilà, des grands groupes qui ont créé leur propre marque, hein, par exemple comme Carrefour. Et enfin, vous avez aussi des entreprises américaines ou internationales de type Beyond Meat, qui a été un leader sur le marché au niveau mondial.
Beyond Meat est une start-up américaine spécialisée dans le substitut végétal à la viande. Elle profite de la très forte progression du marché aux États-Unis parce que les Américains ont consommé plus 27% de viande végétale en 2021 par rapport à 2020. Beyond Meat a fait son entrée en bourse en mai 2019 et son premier jour de cotation sur le Nasdaq, elle a été valorisée à 3,8 milliards de dollars, plus 163%. 2 ans et demi plus tard, elle valait 9 milliards de dollars et en 2021, elle a généré 465 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pour ses pubs, elle se paye Leonardo DiCaprio et Snoop Dogg.
Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend ?
Et elle a même réussi à convaincre McDo de mettre un burger végétal à sa carte, le McPlant. Malgré tout ça, son résultat net se creuse un peu plus chaque année, moins 175 millions de dollars en 2021. Mais alors, le marché est-il déjà arrivé à saturation ? Romain Espinoza.
Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une vraie phase d'expansion ces dernières années du marché, avec beaucoup de startups qui se sont créées, etc. On voit qu'on assiste actuellement plutôt à une consolidation, c'est-à-dire qu'il y a certaines très grandes entreprises qui, par exemple, ont acheté certains acteurs, comme Danone qui a acheté un des leaders en lait végétaux qui était Alpro. Donc voilà, c'est les grands groupes historiques qui rachètent des entreprises naissantes, concurrentes, donc on a une consolidation du marché. et aussi certaines entreprises qui maintenant ont peut-être tendance à mettre la clé sous la porte parce que effectivement des grands leaders se sont mis sur le marché. Donc, par exemple, en France, il y a la startup Tom Pouce qui a annoncé la semaine dernière, après je crois 6 ans d'existence, mettre la clé sous la porte. Mais c'est quelque chose d'assez normal hein, dans une économie, c'est-à-dire que il peut y avoir des premières qui se mettent, startups qui se mettent sur le marché. Certaines se font racheter quand elles ont du succès par des grands, et d'autres, mettent la clé sous la porte parce que les grands vont produire eux-mêmes leurs propres alternatives. Effectivement, maintenant, on a du boursin végétal, on a du Babybel végétal, donc on voit que les grands groupes se sont réappropriés ce marché aussi.
Donc, en ce moment, le marché se consolide, mais il peine à se développer. Est-ce que le problème, c'est le prix ?
Je laisse Romain Espinoza te répondre.
La végétale, aujourd'hui, elle paraît toujours un peu plus chère pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, je pense, c'est le manque de concurrence sur le marché. Parce que vous avez que... c'est un produit aujourd'hui qui reste encore de niche parce qu'il y a peu de consommateurs par rapport au marché général de la viande. Donc, peu de concurrence implique des coûts plus élevés, des prix plus élevés parce que, du coup, il y a moins de concurrence sur les prix. La deuxième chose aussi, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, quand on achète un produit carné, c'est un produit qui est largement subventionné, hein, soit au niveau de la PAC, soit au niveau des aides nationales. Donc, du coup, le prix est artificiellement tiré vers le bas, ce qui, là encore, crée un peu une concurrence déloyale par rapport aux produits, aux alternatives végétales, en termes de viande végétale. Donc ça, c'est pour les prix. En ce qui concerne le goût et la texture, parce que comme je vous dis, pour le rapport final, alors oui, il y a la question des coûts, il y a la question des prix. Et en fait, les coûts peuvent être, sont inférieurs au prix pour la viande végétale. On a des coûts modérés et un prix plus élevé parce que peu de compétition. Et sur la viande issue des élevages, là, c'est le contraire. Vous avez des prix qui sont sûrement en dessous des coûts de production à cause des subventions.
À cause des subventions, comme le dit Romain Espinoza, et aussi parce que le prix de la viande n'intègre pas les externalités négatives, ce que coûte sa production à l'environnement. En eau, en émissions de gaz à effet de serre, en occupation des sols qu'on pourrait utiliser pour produire des fruits, des légumes et nourrir différemment la planète. L'entrecôte, par rapport au tofu par exemple, ça contribue 23 fois plus au réchauffement climatique. Ça épuise 17 fois plus les réserves en eau et c'est 18 fois plus toxique. Passer d'une alimentation animale à une alimentation végétale diminuerait de 11% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En comparant les coûts d'investissement nécessaires pour réduire les émissions de tous les secteurs économiques confondus, investir dans les protéines végétales est une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais je ne peux pas vous parler de lutte contre le changement climatique sans vous parler du soja. C'est l'aliment de base du tofu et de beaucoup de viande végétale. Et cet ingrédient est très contesté. D'abord, on entend souvent que le soja vient de loin et que son empreinte carbone est démentielle. C'est vrai. Selon l'INRAE et AgroParisTech, l'Europe importe actuellement 90% des 34 millions de tonnes de soja qu'elle consomme par an depuis les États-Unis et le Brésil. Et toute cette production de soja nécessite de grandes étendues de culture. Il est donc vrai de dire qu'à cause de cette consommation, nous participons à la déforestation de l'Amazonie. Mais le soja importé est utilisé à plus de 90% pour nourrir les animaux d'élevage qui finiront dans nos assiettes. Les poulets surtout, mais aussi les porcs, les vaches laitières et dans une moindre mesure, les bœufs. Alors que le soja utilisé pour l'alimentation humaine, transformé en tofu ou en viande végétale, est majoritairement européen. Il occupe aujourd'hui 1,7% des surfaces cultivées en Europe, soit 5 millions d'hectares. Cette culture a quadruplé en 12 ans, entre 2004 et 2016. L'Europe pourrait produire 50% de sa consommation en consacrant au soja 4% des terres cultivées. Pour atteindre la pleine autosuffisance et donc pour nourrir les bêtes, il lui faudrait consacrer 11% des surfaces agricoles existantes. Beaucoup moins si on passait d'une alimentation carnée à une alimentation végétale. Ensuite, le soja serait un perturbateur endocrinien. On lui reproche d'être trop riche en isoflavones, des molécules qui agissent comme les hormones féminines. Pour limiter les risques, les autorités sanitaires ont établi des recommandations et au passage, ce principe de précaution est une particularité bien française. Selon l'ANSES, il ne faut pas dépasser 1 mg d'isoflavone par jour pour chacun de nos kilos. Un homme qui pèse 77 kg ne doit donc pas consommer plus de 77 mg d'isoflavone. Ça correspond donc à 12 steaks de soja par jour. Mais il faut avouer qu'au-delà du soja, la composition nutritionnelle des steaks végétaux inquiète les Français. Selon Karine Perrault de Kantar Insight, 90% des sondés déclarent vouloir plus de transparence sur les produits alimentaires végétaux transformés. Et c'est vrai que côté nutrition, les steaks végétaux ne sont pas tout roses. Romain Espinoza.
Alors, il y a deux choses qui sont importantes d'avoir en tête quand on parle de consommation de produits transformés d'origine végétale. La première, c'est finalement, qu'est-ce qu'on remplace ? Donc, si vous allez remplacer, par exemple, de l'alimentation végétale non transformée, donc des lentilles, par exemple, que vous avez cuites vous-même, par ces steaks-là, transformés, effectivement, il y a de grandes chances que ce soit moins bon pour votre santé. Mais si vous remplacez, par exemple, d'autres produits de viande transformée par ça, ben vous avez vraiment un gain parce que vous avez le gain de légumes. Et le deuxième chose à avoir en tête aussi, c'est que tous les produits carnés n'ont pas le même impact sur la santé. Donc, ce qui est vraiment très mauvais pour la santé, c'est la viande rouge transformée. Ensuite, vient la viande rouge de manière générale. Donc là, on a des preuves scientifiques comme quoi c'est mauvais pour la santé. Donc, remplacer ces produits-là, même la viande rouge non transformée par des produits végétaux transformés, c'est possible qu'il y ait quand même un gain parce que on a plus de fibres, par exemple, et on n'a plus l'aspect viande rouge. Après, par exemple, si vous consommez la viande de volaille non transformée avec et vous comparez ça avec un steak végétal transformé, bah effectivement, ici, le gain, il n'est pas forcément clair. Mais si vous consommez des produits de volaille transformés, des nuggets de poulet, par exemple, bon, bah là, a priori, vous n'avez pas de questions à vous poser en termes de santé avec un produit de nuggets végétal.
La consommation de viande rouge est à l'origine de maladies cardiaques et de cancers colorectaux. Une étude publiée dans la prestigieuse revue The Lancet estime à 40 000 les décès imputables à la consommation de viande rouge en 2019 en France. C'est presque autant que les décès dus à l'alcool.
Les steaks végétaux sont donc encore plus chers que la viande, mais à cause d'un manque de concurrence et d'aide publique déloyale. Mais ce prix final pour le consommateur n'inclut ni ce que coûte la production carnée à l'environnement, ni ce qu'elle coûte à notre santé, et ne parlons même pas du bien-être animal. Tous ces coûts cachés justifieraient, selon toi, une mobilisation politique pour une transition vers le tout végétal ?
En France, les protéines alternatives à la viande ont du mal à percer. Pourtant, les steaks végétaux présentent de nombreux intérêts, celui du bien-être animal, pour l'environnement ou encore pour la santé. Alors j'ai plutôt envie de te répondre par une question, Emmanuel. Ne devrait-on pas diminuer les subventions des agriculteurs bovins ou taxer les produits d'origine animale pour y intégrer le coût des externalités négatives ? On pourrait aussi imaginer autre chose, pousser les agriculteurs et les charcutiers à se reconvertir dans la culture et la transformation de légumineuses.
Je pense que c'est une mauvaise question de se poser à court terme, du moins, la question d'arrêter totalement la viande carnée. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut changer les comportements alimentaires. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il faille diminuer au moins de 80% la consommation de viande. Bon, déjà, on a du chemin pour y arriver. Donc, allons-y petit à petit. Sur les 20% qui restent, peut-être qu'on en discutera, je sais pas, dans 30 ans. Mais déjà, y aller petit à petit. Et aujourd'hui, on voit déjà que finalement, il y a une politique dans la stratégie française bas carbone et une stratégie qui vise à juste attendre les départs à la retraite de certains éleveurs bovins pour diminuer les émissions de méthane au fur et à mesure. Et ça, par exemple, c'est une très mauvaise stratégie parce qu'en fait, c'est pas une stratégie d'accompagnement de la filière, de réinsertion de l'emploi, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment un accompagnement fort là-dessus. Et aujourd'hui, le risque, en fait, auquel on est exposé, c'est qu'il y ait des changements alimentaires qui se passent sans le soutien à des éleveurs ou à des emplois qui en dépendent de transformation, de coopératives, etc. Donc, pour moi, la plus mauvaise stratégie, c'est de laisser le marché faire sur ces questions.
Alors, l'État devrait-il donner un petit coup de pouce à l'industrie végétale ?
Personnellement, je pense qu'on devrait plutôt essayer de favoriser l'alimentation végétale non transformée, vraiment parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la planète et ce qu'il y a de meilleur pour la santé humaine. Après, je pense que ce qui est important, c'est pas tant de subventionner la viande végétale, mais peut-être de subventionner les recherches dans ce domaine-là, parce que ça peut bénéficier à tout le monde, pas seulement à quelques producteurs.
Finalement, on constate que les défenseurs de l'alimentation végétale militent depuis les années 70 pour une chose, l'accessibilité à des plats ou à des aides culinaires goûtues, attrayants, faciles à cuisiner et peu chers, afin de démocratiser l'alimentation végétarienne. Cela permet d'atteindre de nouvelles populations qui n'auraient ni le temps ni l'argent de s'intéresser à ces questions. Alors oui, ce n'est pas le meilleur pour la santé, souvent trop sucré, trop gras, mais c'est toujours meilleur qu'une grande consommation de viande. Pour autant, l'industrie carnée pèse lourd, beaucoup plus lourd que les investissements dans la viande végétale pour le moment. Impossible d'imaginer Apivore ou Lavie concurrencer Fleury Michon aujourd'hui. Mais les mentalités commencent à évoluer. Et intégrer les véritables coûts de la viande à son prix, sans même parler de subventions ou d'aides de l'État, permettrait déjà de faire avancer les habitudes alimentaires plus vite.
Merci Cathy pour cet épisode qui ouvre l'appétit. Et si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, cela nous aide à être mieux référencés. à lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Cathy Dogon, en compagnie d'Emmanuel Martin, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Xavier Kamaki, prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Directrice des productions, Marion Gourdon.